Alors, je suis avec Juliette Agnel pour son livre qui s'appelle Discus, l'invisible. Est-ce qu'on dit discus?
Je crois que c'est discouche.
Discouche. Et c'est?
En breton.
En breton.
Et c'est caché, pas caché, mais je te trouverai l'interprétation exacte, parce que c'est une interprétation, enfin c'est un mot qui a été trouvé par le géobiologue lui-même, qui est donc breton et qui parle en breton. Donc
d'accord.
Il a fait un jeu de mots avec ce titre.
D'accord. Et donc c'est édité
aux éditions Isabelle Sauvage.
Et c'est le résultat d'une résidence de 2 mois, si j'ai bien compris,
ouais.
En pays breton.
Dans les Monts d'Arrée.
Dans les Monts d'Arrée.
Qui est une espèce d'île, enfin quelque chose comme ça, du Finistère. Île parce que c'est un monde entier, en fait, particulier.
Qui est un peu différent du reste du monde.
Un peu différent du reste de la Bretagne, ou en tout cas, ça pourrait s'apparenter un peu à la forêt de Brocéliande au niveau de ce qui s'y passe, de ce qu'on peut ressentir pour certains en tout cas, sauf que c'est un lieu qui n'est pas tellement connu du coup, et puis qui est encore vivant dans ce sens-là. En fait, sur place dans les Monts d'Arrée, à un moment donné, je me disais, parce qu'il y avait quelques journalistes qui sont venus comme ça au début de la résidence pour me demander ce que je faisais, je me disais, ça va être dur de leur expliquer que je veux photographier l'invisible, machin, mais en fait, ils avaient tous un pendule dans la poche. C'est la base des Monts d'Arrée. Donc, c'était pas très compliqué d'en parler, au contraire. Donc, c'est ça, les Monts d'Arrée. Puis, il y a plein de choses dans les Monts d'Arrée, en fait. Il y a l'enfer, il y a des lieux hyper importants qui sont. Puis, il y a un monde invisible qui est là, en fait, dont les gens.
Alors qu'on perçoit comment, du coup,
Qu'on perçoit si on veut les percevoir déjà. On peut surtout déjà peut-être percevoir une force, une nature forte, profonde, belle. On peut être juste, on peut trouver ça beau déjà. C'est
un ample romantisme.
C'est pas mal, ouais, le romantisme, ça me parle pas mal de toute façon. J'ai revu là des peintures de. Ça va être compliqué les mots, les noms.
C'est
romantisme allemand là. On ne connaît que lui. Les paysages dans la brume, tu vois.
Oui.
Bon, c'est
les gueules peut-être.
Non, mais.
Dorelis.
Non, attends.
Hermann Hesse, non.
Caspar David Friedrich, par exemple.
Ah, je ne connais pas.
Mais à l'occasion, tu regarderas et c'est, je me sens très proche. On a vraiment beaucoup de choses en commun dans les images qu'on construit. Donc voilà, bref, mais ouais, je sais plus ce que je disais du coup. Mais les Monts d'Arrée, je disais déjà que sur la perception de ce monde-là, je sais pas si on. En fait. Bon, déjà, j'ai essayé de visiter quoi, les Monts d'Arrée, d'aller voir à droite, à gauche, un peu tout ce que je pouvais aller voir, et puis de photographier ce qui me plaisait, parce qu'en fait, c'est un peu là où je crois que c'est. Enfin, pour moi, en tout cas, le point d'entrée, c'est aussi ce qui m'émeut, quoi, ce qui me.
Met en mouvement.
Ce qui me met en mouvement, oui. Et que je trouve fort. Ce qui est en même temps ça, ce qui est en même temps ce que je trouve beau, en fait. Ce que je trouve fort et ce que je trouve beau, ça va ensemble. Du coup, le passage vers une perception. On va dire de force invisible, il est dans ce choix là de.
Et parce que c'est un monde habité.
Ouais, c'est un monde habité quand même, plus qu'ailleurs quoi, quand même. Dans les Monts d'Arrée en tout cas, c'est assez présent à plein d'endroits. Il y a le mont Saint-Michel qui est un petit mont, mais enfin quand même un mont où il y a une chapelle tout en haut. Où on se sent vraiment bien, quoi. On est dans un espace, il y a un truc où on se sent bien. Il n'y a pas de. Et ça, il y a beaucoup de personnes quand ils y vont, ils se sentent bien. C'est pas juste moi, quoi. Il y a un truc comme ça aussi où il y a des perceptions, des sensations face à des lieux où on est. On se sent mieux ou moins bien ou quoi. Enfin, il y a des choses comme ça. Et comme ces trucs-là, c'est impossible de les photographier, j'aime bien ce truc de challenge, de. Devoir faire un truc qui n'est pas possible en fait.
Photographier l'invisible avec la photographie, c'est quand même pas non plus anodin. Hein.
Non, bah oui, mais en même temps, c'est tout le temps ça qu'on fait quelque part. Hein. C'est ce que tous les artistes font. Enfin, c'est très très général, mais j'avais envie de pointer du doigt ça pour moi. Enfin, dans ce lien-là avec aussi c'est aussi une rencontre humaine. Donc des géobiologues, d'abord un sourcier, et puis ce métier-là. Qu'à un espèce de renouveau, même si c'est pas du tout nouveau, mais enfin, c'est plutôt une acceptation publique, je crois, plus qu'à un moment donné, j'ai l'impression. Et du coup, j'avais un peu envie de bosser avec ce métier, ce corps de métier-là, pas forcément par exemple les magnétiseurs, mais plus des gens qui bossent sur le lieu que sur les hommes, que sur l'humain. Et les monts d'arrêt, j'avais déjà cette idée-là, en fait, c'est de bosser avec un géobiologue. Et quand on m'a proposé les monts d'arrêt, je me suis dit que c'était là, justement, où ça allait se concrétiser, cette possibilité de travailler avec quelqu'un qui bosse sur les énergies dans les lieux. Quoi.
Et dans la genèse du projet, en fait, il y avait cette rencontre avec les lieux. Et donc, c'est un travail de reportage, entre guillemets, un peu, dans lequel tu te livres à la sensibilité de ton âme, si je pourrais dire,
ouais.
Dire cette rencontre entre ce que tu perçois et ce que tu peux voir, et comment ce que tu peux voir, ce que tu vois, supporte l'invisible, où en est le témoignage.
Ouais.
Une espèce de radiothérapie, d'une certaine manière,
ouais.
Mais dans l'ordre des formes, du coup.
Ouais.
Et donc, ce qui génère ton image en noir et blanc, parce que ça travaille en noir et blanc, pour les fougères.
La majorité, ouais, voilà. En tout cas, une
donc, grosse partie. On est bien dans cette présence... Et c'est pas justement parce que tu aurais pu progresser en deux temps, c'est-à-dire t'immerger,
ouais.
Et puis ensuite passer par une conception, une représentation, ouais. Esthétique et revenir avec une approche qui soit esthétisante. Pas du tout,
non, ouais.
En fait. Tu parles là de la sensibilité pure, de la perception.
Mmh. Mmh.
Donc on est un peu chez Kant en même temps.
J'adore Kant en toute façon, donc ça me va. Ouais. Oui, parce que alors. Ouais, c'est une autre possibilité d'aborder les choses comme ça, mais pour moi, je crois que là, justement, si on parle de sensations et qu'on part des sensations, de la sensation, c'est quand même l'immédiateté de la rencontre. C'est pas la revisite d'un lieu. Ça peut pas être comme ça, quoi. Sinon, c'est déjà perdu, quoi. Donc, pour moi, en fait, dans les endroits que je visite, je peux avoir une visite préalable, mais si on est dans ces trucs de sensations, ça doit être tout de suite avec les sensations que j'ai aujourd'hui, quoi. Sinon, je vais revenir avec d'autres sensations projetées de ma première sensation, et du coup, ça sera encore autre chose. Peut-être pas inintéressant, mais c'est pas ça que je voulais faire.
Oui, mais ça aurait pu être une espèce de relevé de ta propre sensibilité, de tes propres sensations dans un premier temps,
ouais.
Qui, à travers tout un processus qui t'appartient de création,
oui,
puisse ensuite, à travers alors, une écriture, une esthétique, etc.,
oui.
une forme de représentation, générer une autre approche,
oui, ça aurait
plus
pu.
Dramatrique, plus libre, je sais pas. Mais en fait, c'est pas ce qui t'intéresse.
Non, pas là, en tout cas.
C'est ta rencontre.
Ouais.
C'est cette rencontre avec les monts d'arrêt, en fait.
Oui, et puis un truc aussi de simplicité, c'est-à-dire que j'avais pas envie... Voilà, oui, c'est ça aussi ce que tu dis, finalement, c'est que j'avais pas envie d'être dans je voulais que ce soit un truc accessible à tous, en fait, c'est-à-dire comme une visite simple, et à force de regarder, à force de visiter, à force d'additionner les images et les visites... On peut rentrer dans une certaine profondeur et que c'est à cet endroit-là et que du coup, en fait, on est tous capables de percevoir certaines choses en simplement s'attardant, par exemple, sur l'observation d'une écorce ou d'une plante ou d'une forêt.
Oui, mais ça suppose que le regard soit à ce moment-là en adéquation ou en opération sur cette recherche d'invisibilité, d'invisible.
Oui, oui.
C'est-à-dire que ce soit une connexion en même temps.
Oui.
C'est-à-dire que ce regard n'est pas un regard, comment je peux dire, gratuit. C'est-à-dire qu'il procède quand même de l'intention de saisir quelque chose de l'invisible.
Oui.
Et qu'en même temps, dans ce dialogue que tu as avec ces forces invisibles qui séjournent comme ça discrètement dans les formes, parce que le paysage, lui, il existe.
Mm.
Et donc tu le photographies chargé de ces forces invisibles dans une espèce d'immédiateté, de co-présence.
Ouais.
Donc d'où le mot connaissance aussi, c'est-à-dire naître avec les choses.
Ouais.
Donc ça, c'est un retour sur tout ton processus créatif qui s'exerce à ce moment-là. Je pense.
Oui, c'est vrai.
Et qui fait que, qu'est-ce qui fait photographie à ce moment-là ? Eh ben, c'est ta découverte, c'est ces dialogues, avec tout ce qui est chargé dans le paysage de visible et d'invisible et comment je pourrais dire, de mouvements intérieurs qu'on ne perçoit pas à l'œil. Mais l'intérêt aussi, c'est que tu me parles d'une perception, mais là on est à travers une photographie, donc on utilise un médium, et que du coup ça suppose que tu es aligné aussi ton œil intérieur, excuse-moi, mais avec la caméra, et qui fait que cette caméra Obscura ou Clara, ça dépend comment on peut l'entendre, elle est dans le relais de ta perception, de ta sensibilité.
Ouais. Bah ça.
Donc on attend de voir les tirages, parce que je pense que les tirages de grand format, ça doit quand même être vachement plus, alors je ne sais pas, présent d'une certaine manière que des reproductions dans le livre qui sont de petits formats.
Oui, c'est autre chose. De toute façon, c'est deux choses différentes. Il y a l'exposition, puis il y a le livre. Hein. Le livre, ça permet d'être aussi dans la quantité et dans finalement le temps aussi.
Oui, dans le mouvement.
Et aussi, oui, dans le mouvement. Et du coup, d'avoir un peu la somme de tout ce que j'ai pu percevoir et voir. Tandis qu'une exposition, on va s'attarder plus sur l'intérieur d'une seule image, etc. Et du coup, un voyage à l'intérieur justement d'un mystère d'une image ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc, bah, ça sera à Lannion, là.
J'ai vu qu'il y avait une exposition
programmée. Ouais, t'as vu déjà.
Bien sûr, oui.
Le 10 octobre.
Tu peux le redonner pour nos auditeurs.
Le 10 octobre, à l'imagerie de Lannion, il y a donc une exposition qui sera pas seulement consacrée à cette résidence, mais il y aura trois salles, trois parties. Il y aura une salle sur les portes de glace, une salle sur Taharqa et la nuit, et la troisième salle sur l'invisible. Et l'exposition globale s'appelle La mémoire des roches.
Parfait.
Ça me va. Alors, c'est vrai que c'est la continuité, fait. Donc je trouve ça assez génial d'avoir l'occasion d'exposer quand même ces trois séries-là. Même si pour moi, en fait, les portes de glace, Taharqa et la nuit, et ben le troisième volet, ça va être un travail sur les grottes. Ça fait longtemps que je le sais, que je le pense. Et maintenant que ça se concrétise carrément, mais c'est encore en cours. Et en même temps, il y a eu ce travail fait sur les monts d'Arrée qui est aussi la troisième partie. Enfin, je sais pas qui est la troisième partie, mais il est vraiment à l'intérieur. Il s'inscrit complètement dans la continuité de ces autres séries. Ouais.
Et comment ça s'articule en fait, d'une certaine manière, entre cette première exposition sur les ports de glace? Jusqu'à quel est le chemin que tu as parcouru en fait.
Ouais, justement pour les portes de glace, ce qui m'a intéressé, c'était une rencontre avec un géobiologue en fait, qui m'a fait percevoir une espèce de porte ou un seuil, enfin un passage entre deux mondes, enfin une porte dans une forêt, dans une balade. Il y avait eu une histoire de porte et j'étais pas là à ce moment-là, donc pendant une année j'ai attendu de refaire cette balade parce que c'est un truc qu'on réitère tous les ans, c'est un stage avec un cours de gym, enfin introspection, machin. Et donc l'année d'après, je retourne. Et puis là, du coup, il y a eu. J'ai vraiment perçu cette porte très fort à l'intérieur. C'était impressionnant. J'ai même réessayé plusieurs fois pour me dire ben, j'essaye sans être trop branché pour voir et tout. Ben, ça marchait quand même vraiment pareil. Donc je me suis dit. Déjà depuis l'année dernière, je me disais c'est assez génial et incroyable cette histoire de porte et comment tu la figures en image, quoi, parce que c'est justement pas possible en fait. Et du coup, ça me trottait dans la tête. Plus après, je vis cette expérience là de passage de seuil. Et en allant au Groenland pour faire des images sur le passage en fait d'un monde à un autre, j'avais ces histoires de portes en tête, quoi. Donc les portes de glace, c'est aussi ça en fait. D'abord,
alors, de
ça,
quel monde à quel monde?
Ah bah, d'un monde réel à un monde imaginaire, pour moi en tout cas. Les portes de la réalité vers
de ce qui se signale à nous comme réalité en fait.
Ouais.
C'est-à-dire comme objectivité, mais bon.
Oui, toute relative. Mais enfin, il y a quand même pour moi cette importance aussi, d'ailleurs via ce médium de la photographie quand même, de commencer à prendre une matière dans le réel, dans un simple réel, on va dire, enfin, un certain réel, et l'envie pour moi de basculer, que ce réel bascule vers un plus improbable monde, quoi, enfin, ou plus imaginaire, ou...
Oui, parce qu'avec les portes de la rêver, nuit, déjà aussi, tu...
Voilà. Avec les nocturnes.
Les nocturnes.
Oui, mais c'est pareil. C'est aussi, c'est aussi l'idée de faire basculer vers un imaginaire plus que vers une réalité. Est-ce qu'on est en... C'est toujours ça aussi. Est-ce que c'est post ou pré-humanité, ou c'est plus trop dans quelle...
Une vision anthropologique en même temps, puisque bon, quelque part, on est un peu dans la découverte du sacré ou des portes du sacré ou des représentations. Oui. Qui font, qui agissent le monde en fait,
oui.
pour le recomposer. Donc alors il y a les cosmogonies, on les connaît, etc. Et donc comment tu te situes par rapport à tout ça finalement, c'est-à-dire à tout ce matériel de la connaissance, de l'anthropologie, des rituels.
C'est marrant aussi. Enfin c'est marrant, tout fait sens à un moment donné si on suit bien son chemin, son juste
son
chemin
fil.
Ou quelque chose comme ça, mais en fait, moi, j'ai commencé, avant de faire des photos, j'étais d'abord en faisant de la peinture, et puis après, j'ai fait de l'ethnologie. Et je suis partie pendant 4 mois, et puis ensuite 3 mois en Pays d'Ogon. Donc, le Pays d'Ogon, évidemment...
Avec qui, s'il te plaît, rappelle-nous, quand même.
Non, je ne suis pas partie avec, mais je suis partie en étant dans la maison de Jean Rouche, etc. Voilà. Et cet été aussi, quand je réfléchissais à des tas de trucs... Je me suis rendu compte que les grosses émotions artistiques que j'ai eues, enfin certaines des grandes émotions artistiques que j'ai eues qui transforment ma vie, c'est quand même Jean Rouche et Herzog aussi. Et finalement, ce qui me touche au plus profond et qui
te met en mouvement.
Qui me met en mouvement encore une fois, ouais. C'est quand même des gens qui prétendent faire du documentaire en étant dans le rêve, quoi. Et je me suis retrouvée assez proche de leur démarche, enfin quelque part, enfin une autre démarche, mais dans ce même mouvance. Et je ne m'étais pas aperçue de ça, en fait, jusqu'à il y a quelques jours, quoi.
C'était,
que c'était si important pour moi, mais en plus de ça, que j'en avais fait un écho quelque part. Enfin, c'était aussi ça que je cherchais dans ce travail photographique, quoi.
Oui, parce qu'il y a sans doute eu une insémination à ce moment-là.
Ah bah, il y a eu, hein. De toute façon, voilà. Quand on est touché comme ça, à un moment donné, ça grandit d'une façon ou d'une autre, ouais.
Bon, bah, écoute, ce travail que je vais découvrir dans le livre,
ouais.
Parce que tu viens de me le...
Ouais, ouais.
Semble quand même assez magique, pour utiliser un mot. Alors, près du rêve, sans doute... ou issu du rêve aussi.
Ouais, puis en même temps palpable, enfin c'est voilà. Un espèce d'entre-deux comme ça qui me plaît beaucoup, parce que aussi je trouve que ça peut être ça, c'est pour tout le monde finalement. C'est aussi quelque chose qui m'avait frappé, c'est que quand j'ai rêvé de ce que c'était que cette porte et du passage, je rêvais d'un truc un peu soudainement magique, ce à quoi je rêvais, mais en réalité, quand l'année d'après je suis revenue et que j'étais plus attentive, il fallait être juste attentif à des choses auxquelles on peut être tous attentifs, encore plus dans notre enfance d'ailleurs, mais c'est-à-dire le monde du minuscule, je sais pas, il y a un grand champ et puis on s'attarde sur ce champ par exemple, et puis tout d'un coup il y a un mouvement du vent dans ce champ, et puis on se met à observer en fait, on commence à rentrer à l'intérieur de cette observation. Par exemple du vent sur les herbes, et puis on s'aperçoit qu'au loin il y a une forêt et que c'est déjà un autre monde, enfin qu'il y a deux parties, et puis en fait c'est des choses de l'observation, d'une simple observation, si on commence à se brancher dessus, ben on peut aussi percevoir des choses de l'ordre de la sensation dans notre corps, quoi. Et ce truc d'être finalement un monde très accessible à beaucoup plus de personnes que ce qu'on veut bien le dire, quoi, ou le croire, enfin, je sais pas quoi, je trouve ça aussi intéressant. C'est-à-dire que j'ai pas envie que ce soit le truc magique, tout court, point, c'est-à-dire inaccessible. C'est pas juste ça qui m'intéresse de montrer, enfin, dans ce livre-là, dans cette démarche-là, avec le géobiologue. parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de dire j'y crois pas, ce genre de choses-là qui sectionnent en deux
la possibilité. Un peu la croyance,
non, mais on s'en fout, mais c'est ce que je veux dire. Bien sûr qu'on s'en fout, mais je voulais pas non plus, j'avais pas envie d'une transformation totale d'un lieu qui fasse que personne puisse se sentir. Que ces personnes-là, par exemple, puissent se sentir complètement en dehors du truc. Parce qu'en réalité, c'est pas comme ça. C'est pas parce que je veux que tout le grand public puisse voir ça. C'est surtout que la réalité, elle est pas comme ça. La réalité d'un passage vers le monde magique, pour dire ça comme ça, c'est qu'elle est accessible à tous, en fait. Il suffit juste de regarder longuement quelque chose ou d'être à l'intérieur d'une observation, quoi.
Oui, mais là, tu évoques la méditation d'une certaine manière.
C'est un peu la même chose, ouais. C'est une histoire de comment on rentre à l'intérieur.
De soi-même.
De soi-même, et du coup, du temps, et de la matière, enfin, et des choses, même d'un autre, même d'une chaise, même d'une pierre ou d'un arbre, quoi. Plus facile, un arbre, mais enfin.
Donc là, on est dans un esprit magico-religieux, quand même.
C'est
toute la pratique des chamans.
J'allais dire mystique, mais oui.
Oui, magico-religieuse,
oui,
mystique.
Oui, c'est pareil. Bien sûr.
Et donc, on est tous le produit de cet apport-là, en quelque
sorte. En tout cas, c'est là autour de nous beaucoup, beaucoup plus
que ça ne paraîtrait.
Oui, que ça paraît, oui, je pense. En tout cas, c'est ma constatation, en fait. C'est un peu le point de départ comme le point d'arrivée, quoi. Ça.
Bon. Écoute, merci pour cette interview impromptue de la rentrée.
Ouais.
Sous le soleil quand même.
Ouais, il fait assez chaud même.
Et je pense que tu allies la portée du rêve et ce qui peut se révéler en même temps dans ton image de l'esprit du monde. Donc, je pense qu'il y a un mouvement qui est assez chouette, assez beau. Dans ta pratique, dans ta photographie, dans ton écriture, c'est ça. C'est que tu nous rends sensibles, finalement, à la réalité profonde des choses. La nature et du monde.
Si c'est ça que ça fait, c'est super.
Oui, et que donc ça ouvre aussi pour chacun
une
forme de voyage dans tes images, qui serait le relais de ta propre sensibilité, ton propre éveil, au fait que la nature est vivante.
Oui.
Merci, Juliette.
De rien, avec plaisir, plutôt.